Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Dans le cadre des émissions que nous réalisons sur nos systèmes judiciaires et pénitentiaires, c'est notre deuxième rendez-vous sur les ondes de Fréquence Mistral. Cette émission est consacrée au milieu carcéral. Digne et Gap possèdent toutes deux leur propre maison d'arrêt, des prisons à taille humaine et installées en pleine ville. Rien à voir, ou presque, avec les Baumettes ou Fleury-Mérogis, par exemple. C'est ce que nous avons retenu d'une visite à celle de Gap, et nous allons en parler avec le directeur de la maison d'arrêt de Digne, M. Fabrice Delon, dans un instant. Avant de se pencher sur l'établissement dinois, je vous propose d'écouter plusieurs interviews réalisées dans les conditions du direct à Gap le mois dernier. Nous allons entendre successivement André Magnier, le directeur de la maison d'arrêt de Gap, puis Cécile Castelli, chef d'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de probation des Hautes-Alpes, également Estelle Bonnet, conseillère d'insertion et de probation dans le 05, Audrey Esmieux, qui est enseignante en milieu carcéral à Digne et à Gap, ainsi qu'une surveillante de la maison d'arrêt gapensaise, Patricia. Et bien sûr, un détenu qui purge sa peine à Gap, nous l'appellerons Christophe. Ces entretiens sont conduits par François Malabave. Nous nous retrouverons tout de suite après avec Fabrice Delon, directeur de la maison d'arrêt de Digne-les-Bains, Gwenaëlle Joly, qui est son directeur adjoint, ainsi que Olivier Villès, directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du 04 et du 05. Et puis, nous écouterons, pour terminer cette émission, le professeur d'éducation physique et sportive qui intervient à la maison d'arrêt de Digne également. Il s'agit de Patrick Maire. À tout à l'heure.
Bonjour à tous, c'est une émission très spéciale que nous vous proposons et qui s'inscrit dans une série de plusieurs émissions. Pendant quelques semaines, nous allons nous pencher sur notre système pénitentiaire et la vie dans les prisons, et plus particulièrement dans les Alpes du Sud. C'est sur une idée du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation des Alpes de Haute-Provence, Olivier Villès, et par l'entreprise de notre collègue de Digne, Odile Frison, que cette dynamique commune a pu être concrétisé. Merci à tous les deux. Une collaboration administrative et citoyenne nous anime conjointement avec comme ligne de mire mieux connaître le milieu carcéral. Il y a deux maisons d'arrêt dans les Alpes du Sud, une à Gap et une autre à Digne. Elles sont toutes deux plusieurs fois centenaires et comme d'autres établissements dans notre pays, elles connaissent peut-être des conditions de vie difficiles, des manques de moyens, des effectifs surchargés côté détenus et au contraire démunis chez les surveillants et personnels. Nous évoquerons tout cela au cours de ces émissions. Nous parlerons aussi de la santé des détenus, de leur quotidien, de leur insertion éventuellement après la prison. Nous aurons donc beaucoup d'invités du système judiciaire et pénitentiaire, mais aussi des intervenants en milieu carcéral, fonctionnaires ou associatifs, qui nous donneront leur point de vue et nous ferons partager leurs expériences. Et pour cette émission, nous avons posé nos micros à la maison d'arrêt de Gap et j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs invités, au premier rang desquels, et je le remercie pour son accueil ici même, André Magnier, le chef d'établissement. Bonjour André.
Bonjour.
Vous êtes chef d'établissement ici de cette maison d'arrêt à Gap, une maison d'arrêt qui a une histoire déjà assez ancienne.
Alors, la maison d'arrêt de Gap date comme prison 1795.
Donc, juste après la Révolution.
Comme toutes les prisons, Napoléon.
Et elle n'a rien à voir, je suppose, avec les prisons modernes dont on voit les images très souvent.
Non, ça n'a rien de commun, non. Pour avoir passé ma carrière dans des grosses prisons, quand on arrive à Digne ou à Gap, c'est un autre monde.
Quelle est la capacité de la prison ici même ?
31 places.
31 places ?
Plus 6 places de semi-liberté.
Qu'est-ce que vous appelez la semi-liberté ?
Alors la semi-liberté, c'est un aménagement de peine, mais Cécile en parlera mieux que moi. Le détenu va dans la journée travailler ou en stage, en formation, chercher un emploi et rentre le soir.
Et vous avez un effectif suffisant ici même ? Combien de personnel ?
Personnel, 27 surveillants.
Ça se passe bien ?
Je ne suis pas à plaindre par rapport aux grosses prisons, justement.
Donc c'est une prison qui a un rôle à jouer important. Elle est située en plein centre-ville, aussi à Gap. C'est important d'être au cœur de la cité ?
Bah oui, parce qu'au niveau des partenaires, tout est concentré. Après, les prisons en centre-ville dérangent, mais tous les vieux établissements sont situés en centre-ville.
Les familles peuvent venir voir leurs parents ici même ?
Oui, mais comme dans toutes les prisons, les parloirs existent.
Donc c'est une prison à échelle humaine, on peut dire ?
C'est ça.
On peut dire, on verra tout à l'heure avec une de vos surveillantes comment se passe le quotidien ici même. Et puis bien sûr, vous intervenez, André Magnier, quand vous voulez. À nos côtés également, Cécile Castelli, qui est adjointe au directeur des services pénitentiaires d'insertion des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, et les chefs d'antenne du service pénitentiaire d'insertion du 05. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Vous pouvez nous présenter votre service ?
Oui, absolument. Alors le service pénitentiaire d'insertion et de probation a vocation principalement à prendre en charge les personnes qui ont été condamnées condamnées. Donc, nous sommes saisis des dossiers de ces personnes qui sont condamnées. Et donc, nous avons la double casquette de l'approbation et de l'insertion. Donc, l'approbation, c'est la mise en œuvre de la condamnation, le suivi des obligations judiciaires, l'accompagnement sur les faits, la partie purement judiciaire. Et le volet insertion, c'est la prévention de la récidive et la réinsertion globale de la personne sur l'ensemble des champs du travail, de la formation, de la santé. Nous organisons également des activités culturelles et sportives. C'est le retour aussi vers une citoyenneté active.
Vous intervenez avec des personnes qui sont déjà condamnées?
Oui.
Pas forcément qui attendent d'être jugés?
Alors si, puisqu'au sein de la maison d'arrêt de Gap notamment, c'est la particularité de l'établissement, c'est que nous avons les deux statuts de personnes détenues, le prévenu et le condamné. Donc effectivement, nous avons aussi un travail à effectuer auprès des personnes prévenues en attente de condamnation qui ont fait appel.
Vous avez parlé de probation, bien sûr, on voit ce que ça veut dire. L'insertion, c'est un volet important parce que les personnes qui sont incarcérées vont retourner après dans la vie civile, ils auront payé leur dette à la société, comme l'on dit couramment. Vous mettez tout en œuvre pour bien les insérer, comment ça se passe ?
On essaye en tout cas, effectivement, avec les moyens dont le service dispose, à la fois en termes de personnel, de moyens financiers et de partenaires autour du service. Le service n'intervient pas tout seul. Il y a les conseillères d'insertion et de probation qui sont 5 actuellement dans l'équipe, qui interviennent donc à la fois en milieu fermé au sein de la maison d'arrêt, mais aussi en milieu ouvert. Donc les personnes qui sont condamnées mais qui ne sont pas incarcérées. Et nous travaillons en lien avec les partenaires à l'intérieur de la détention et à l'extérieur. Donc sur ce que je disais tout à l'heure, que ce soit l'accompagnement aux soins, les questions d'addictologie, les soins psychologiques, l'éducation nationale et différents intervenants.
Je suppose qu'il y a donc des fonctions évidemment autour de vous, mais est-ce qu'il y a des personnes du milieu associatif également ?
Énormément, effectivement, et du milieu caritatif également, avec la Croix-Rouge, Secours Populaire, Secours Catholique, et puis les associations culturelles, sportives. La formation est un énorme volet pour nous aussi, la formation et l'insertion professionnelle et l'accompagnement vers la réinsertion professionnelle. La question du logement est une problématique évidemment importante, puisqu'après la maison d'arrêt, il s'agit aussi, dans la préparation à la sortie, d'accompagner la personne vers l'autonomie, éventuellement le retour vers une autonomie quand l'incarcération a pu être longue et qu'il y a pu avoir rupture dans le parcours, notamment du logement. Également, le travail avec les familles et les assistantes sociales qui peuvent travailler autour de la famille, de la situation globale de la personne.
On vous retrouvera certainement autour de cette table ronde, Cécile Castelli, pour parler de votre quotidien et puis du rôle que vous avez, qui est un rôle ô combien important. Vous avez parlé des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, ça tombe bien. Estelle Bonnet est à vos côtés. Elle est conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, ici même dans les Hautes-Alpes. Bonjour Estelle.
Bonjour.
De manière très concrète, c'est quoi votre travail ?
Alors, de manière très concrète, nous, on s'occupe de tout ce qui est aspect social de la vie de la personne. Alors, ça se déroule dans des temps assez forts, en l'occurrence quand la personne est incarcérée, dans un premier temps. Donc, on gère tout ce qui est maintien des liens familiaux, on gère tout ce qui est très pratico-pratique, c'est-à-dire la personne arrive, elle a encore un chien dans son appartement, elle a encore, voilà, on gère comment ça se passe avec tout ça. Donc, je parlais des maintiens des liens familiaux, ça, on s'en occupe tout au long de la détention. Tout au long de la détention, on gère aussi tout ce qui est activité culturelle, sportive, comme le disait ma collègue Cécile. Et on gère également tout ce qui est préparation à la sortie. Alors que ce soit dans le cadre d'un aménagement de peine, c'est-à-dire on essaye de préparer avec la personne une sortie anticipée, dans le cadre par exemple d'un bracelet électronique ou d'une semi-liberté, comme on l'évoquait aussi tout à l'heure. Ou alors quand il est compliqué de mettre en place un aménagement de peine, de s'arranger pour que la sortie soit la plus efficace possible, c'est-à-dire que la personne ait, autant que faire se peut, un hébergement et un travail.
Vous avez un suivi après la sortie de prison ?
Alors ça dépend, ça c'est la justice qui le décide. Il peut y avoir effectivement un suivi en milieu ouvert, comme il peut ne pas y en avoir.
Ça dépend des cas,
ça dépend si la personne effectivement, a été condamnée à une peine, à ce qu'on appelle en milieu ouvert, donc avec un sursis mis à l'épreuve, ou pas. Mais il arrive que la personne sorte sans qu'il y ait de suivi par la suite.
Votre métier, c'est un métier qui est épuisant et qui est de tout repos ?
C'est un métier qui n'est pas de tout repos, mais c'est un métier qui est très enrichissant, puisqu'on est en permanence en contact avec plein de gens très différents, et ça a vocation à être très enrichissant, ouais.
Vous vous sentez utile ?
On essaie.
Je suppose que vous l'êtes également, Estelle, évidemment. Patricia Gomez, alors vous, votre rôle, il est très différent. Vous êtes surveillante à la maison d'arrêt de Gap. Votre quotidien, il est peut-être moins souriant. Comment est-il ?
Mais oui, pourquoi moins souriant ? Non, pas du tout. Non. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la maison d'arrêt de Gap, c'est quand même une prison hors du commun. J'ai travaillé dans de grands établissements pénitentiaires et quand on arrive à Gap, c'est vrai que c'est une prison à taille humaine, c'est une prison où il y a quand même une proximité qui est complètement différente avec la population pénale. Donc on y fait vraiment un autre travail, quoi. Et on a aussi une proximité avec notre hiérarchie qu'on n'a pas spécifiquement dans les autres établissements. Donc en fait, on peut vraiment faire un travail de proximité avec le détenu, un suivi de la vie quotidienne du détenu qui est vraiment complètement différente. On peut s'attarder derrière chaque porte pour vraiment faire un travail en profondeur avec la population pénale.
Si j'entends bien, c'est prendre du temps.
On peut prendre du temps, voilà. On a quand même un devoir d'observation, un devoir de suivi dans la vie quotidienne du détenu. Et ici, à la maison d'arrêt de Gap, c'est vraiment un travail qu'on peut faire en profondeur.
Vous pouvez...
Chose qu'on ne peut pas faire du tout ailleurs, puisqu'on n'a pas le temps de s'arrêter devant les cellules. C'est vraiment rythmé, c'est vraiment tout est chronométré, quoi, dans les autres prisons. Ici, non.
Et c'est vrai que c'était cette échelle humaine dont vous parliez tout à l'heure.
Cette échelle humaine, on a... pas de problème vraiment récurrent de personnel. Donc, on a le nombre exact de vérins qu'il faut tous les jours pour travailler. Donc, correctement, c'est très, très important, en fait.
Patricia Gomez, la maison d'arrêt de Gap n'a pas pris part au mouvement de ces dernières semaines que vous connaissez. Est-ce que vous comprenez vos collègues des autres établissements, par exemple ? Est-ce que vous les approuvez ?
Mais bien évidemment, j'ai été moi en tête des grèves de 87, de 92 et de toutes les grèves qui ont jalonné ma carrière pénitentiaire, donc de 30 ans. Bien évidemment, oui. Bien sûr que je les comprends et que je suis entièrement solidaire avec eux et même peut-être un peu désespérée que ça se soit arrêté si vite.
Peut-être aussi que cette échelle humaine est une des explications des méfaits à côté de la surenchère.
Les conditions de travail, le manque de reconnaissance, ça c'est vraiment quelque chose qui est récurrent chez nous, oui. Et puis le sentiment d'un travail qui n'est pas fait, qui ne peut pas être fait, qui est complètement insécuritaire. Enfin là, c'est un grand débat, il faudrait faire peut-être, je sais pas, 10 émissions sur ça.
J'y suis prêt, figurez-vous.
Ouais, mais il n'y a pas de problème, moi aussi.
Mais donc, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça dépend de notre société. C'est aussi le milieu carcéral, c'est notre société aussi. Et c'est une manière, on va le voir tout à l'heure avec un détenu, c'est une manière aussi de récupérer des personnes qui ont pu peut-être à un moment avoir un moment d'oubli, d'égarement, peu importe. Mais en tout cas, notre société se doit aussi de donner la chance à l'erreur en quelque sorte. Donc on verra ça tout à l'heure. Patricia, vous intervenez quand vous voulez dans cette table ronde, bien sûr, pour parler de votre quotidien et de vos besoins et de vos besoins de vos collègues. Qui Merci. Sont surveillants dans les maisons d'arrêt. Audrey Esmieux, vous êtes enseignante de l'éducation nationale, vous êtes affectée aux maisons d'arrêt de Digne et de Gap. Bonjour. Quel est votre rôle très exactement en tant qu'enseignante ?
Donc mon rôle est d'accompagner les personnes non francophones pour acquérir notre langue en priorité. Deuxième priorité, donc, c'est d'accompagner les personnes qui sont repérées illettrées, donc de les accompagner également dans l'acquisition de la langue écrite et souvent dans une meilleure compréhension orale aussi. Et enfin, notre dernière priorité est d'amener le plus de détenus qui ne sont pas diplômés pour acquérir un diplôme au sein du centre scolaire.
Il y a beaucoup de personnes qui sont en situation d'analphabétisme ou d'illettrisme en prison.
Alors, en prison...
En tout cas, dans les maisons d'arrêt de Digne et Gap.
Sur les maisons d'arrêt de Gap et de Digne, ça reste assez ponctuel. Par contre, on a beaucoup de personnes qui sont non diplômées.
Quels sont les résultats de vos interventions ? Vous arrivez à les évaluer ? De dire, tiens, une personne est arrivée ici, elle est incarcérée. En moyenne, c'est combien de temps, André Magnier, l'incarcération ici à Gap,
à Gap, la moyenne du séjour, c'est 5 mois. Mais c'est qu'une moyenne. Il y a des gens qui vont rester 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et pour certains, vont rester 2 ans, 3 ans. Quoi.
Donc, quand on a une personne, par exemple, qui reste 2 ans, Audrey, on voit bien si elle maîtrise bien la langue, si elle prépare son insertion après la prison. Vous la voyez progresser ?
Donc, ce que je vous expliquais, on a un parcours scolaire en fait qui est progressif. Donc, on peut commencer par l'acquisition du diplôme du CFG, qui est le certificat de formation générale. Suite à ce CFG, je peux proposer au sein de la maison d'arrêt de Gap et de Digne l'obtention du CAP DAC, qui est un dispositif d'aide à la qualification. Donc, qui en fait propose d'acquérir les matières générales du CAP.
Vous êtes vous-même enseignante, je suppose que vous avez déjà eu une classe devant vous, peut-être d'école primaire, peut-être de collège ou de lycée. C'est pas une classe que vous avez ici, c'est tout à fait différent.
Alors c'est à la fois différent et similaire, hein. On a une grande hétérogénéité à gérer en fait, ça c'est, j'ai envie de dire, pareil qu'à l'extérieur, où on a, si on a une classe de CM1, CM2, on a des élèves de tous niveaux. En dehors de ça, voilà, la grande différence qui se fait au sein du centre pénitentiaire, en fait, c'est un problème de discipline. Donc ici, j'ai affaire à des adultes, donc il n'y a pas de discipline à gérer pour ma part. Et c'est vrai que c'est donc très agréable, et ce qui me permet de me concentrer essentiellement sur la pédagogie.
Vous avez aussi parfois des situations de confiance où on vient vous parler comme on parlerait à une amie. Ça vous arrive ?
Arrivé, pour ma part, j'essaie de stopper, non pas parce que je ne veux pas écouter la situation des détenus, mais parce que c'est pas mon rôle non plus. Mon rôle, c'est de les accompagner pour acquérir des compétences, des connaissances. Voilà.
Et d'enrichir ce moment particulier qui est la sortie avec une insertion possible par le biais justement de l'instruction, de l'éducation, de la maîtrise de la langue, la maîtrise du calcul. C'est toujours utile.
Oui, donc il y a ces savoirs très très scolaires. Il y a aussi un accompagnement plus citoyen avec des formations de secourisme qui sont proposées par le biais de l'éducation nationale, qui peuvent permettre aux détenus d'avoir des compétences autres et qui peuvent être utiles pour leur réinsertion professionnelle par la suite.
Merci beaucoup. On va passer la parole à Christophe. Je suis ravi de vous accueillir, Christophe. Vous représentez, vous avez la lourde tâche de représenter les personnes pour qui toutes les personnes autour de cette table travaillent, autrement dit les détenus. Et je vous remercie de pouvoir participer à cette table ronde. Christophe, la prison, c'est évidemment la privation des libertés. Comment vous vivez ça ?
Mais au départ, quand vous êtes condamné, c'est assez difficile parce qu'il faut pouvoir accepter en fait la condamnation. Donc quand vous avez été jugé, comme ça a été le cas pour moi puisque je suis passé en comparution immédiate, contrairement à d'autres personnes qui sont en mandat de dépôt ici. Donc ils ont, c'est encore plus dur pour eux parce que justement ils n'ont pas de date de jugement, ils n'ont rien du tout de cela. Donc psychologiquement, c'est beaucoup plus difficile que moi ce que j'ai eu. Après moi personnellement, j'ai été jugé donc sur le tribunal de Digne, j'ai eu une peine de 3 ans à faire. J'ai un dossier d'orientation qui est en cours à l'heure actuelle, donc j'attends une réponse. J'ai le privilège d'avoir fait pas mal d'activités au sein de la maison d'arrêt de Gap, que ce soit au niveau des cours que Madame Esmieux donne, puisque j'ai réussi à passer un CFG auprès de Madame Esmieux et je suis en train de préparer un CAP. J'ai eu l'avantage de faire du yoga, puisqu'on a une activité yoga, et on a pas mal d'activités au niveau des jeux de société aussi au sein de la maison d'arrêt de Gap. La maison d'arrêt est assez diversifiée au niveau de ses activités surtout. Donc on a pas mal de choses qui nous permettent quand même de se réinsérer rapidement. On a l'avantage d'avoir accès aux surveillants et à la direction assez rapidement aussi si jamais on venait avoir un problème. Chose qui n'est pas le cas ici, enfin du moins pour ma part et pour d'autres détenus, je pense que c'est la même chose. On a l'avantage d'avoir l'unité médicale aussi à nos côtés rapidement. On a l'avantage aussi quand on fait une demande d'aménagement de peine, comme ça a été le cas pour moi. Donc le juge a 4 mois pour statuer dessus, mais on est rapidement reçu, on va dire dans les 2 mois, entre 2 et 3 mois, tout cela se fait. Donc c'est un gros avantage qu'on a dans une petite maison d'arrêt comparé aux autres centres de détention, que ce soit des CD ou une centrale.
Alors Christophe, vous avez une vision qui est presque idyllique de la prison. Il faut se méfier de ça. Je rappelle tout à l'heure, c'est la privation des libertés. C'est un moment difficile que vous avez vécu ici même. Ce n'est pas des ateliers de yoga. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et vous préparez votre avenir aussi à la sortie.
Après, on a l'avantage d'être bien entouré au sein de la maison d'arrêt de Gap, comme je vous disais.
Ça n'empêche pas.
Donc, c'est l'avantage qu'on a, puisque justement, on peut travailler sur notre réinsertion, sur notre projet de sortie plus facilement qu'un grand centre de détention.
Alors, on parlera de votre sortie tout à l'heure, mais je voulais vous poser une question en ce qui concerne vos rapports personnels avec les autres détenus. Comment ça se passe ici même ?
Comme tout le monde, assez réticent, assez méfiant, puisqu'on ne sait jamais sur les personnes sur qui on tombe. Donc à partir de là, mais après, au fil du temps, on apprend à connaître les personnes et il y a certains liens qui se créent. On arrive à discuter avec les personnes facilement. C'est l'avantage d'une petite prison comme on est à Gap, comme il y a à Digne. C'est l'avantage des petites maisons d'arrêt.
Vous avez parlé tout à l'heure aussi des rapports plutôt confiants envers les surveillants. Ça aussi, c'est important pour pouvoir se réinsérer ensuite.
Oui, mais c'est important, bien sûr. Mais après, comme je vous ai dit, c'est une petite maison d'arrêt. Donc, c'est l'avantage qu'on a. On a contact avec les surveillants, on a contact avec la direction. On peut avoir, par le bien des requêtes, ce qu'on appelle. Donc, on fait des requêtes pour avoir des rendez-vous sur l'unité centrale, sur les professeurs, etc. Au début, quand on arrive, pour pouvoir accéder aux activités, etc. Donc on est reçu rapidement et c'est l'avantage qu'on a par rapport à un grand centre de détention.
Est-ce que vous avez des souhaits personnels que vous auriez aimé voir réaliser pendant cette période un peu particulière de votre vie ?
Pour l'instant, on va dire non, puisque à l'heure actuelle, je suis en train de purger, comme je vous ai dit, une peine de 3 ans. Donc tout ce que j'ai fait à l'heure actuelle, je l'ai fait pour moi et j'ai réussi à avancer dans mon insertion, puisque maintenant, à l'heure actuelle, je suis au travailleur aussi. Donc au sein de la maison d'arrêt, je suis en tant que cuisinier. Ça se passe très bien aussi. J'ai eu l'avantage justement d'être dans une petite prison et pouvoir accéder rapidement à ce service-là, comme un service de CPE qu'on a qui est accessible aussi rapidement.
Christophe, cette proximité que vous signaliez entre les surveillants et les détenus, elle est importante parce qu'elle est humaine.
Tout à fait. Elle est très humaine. Ils sont très compréhensifs. Ils sont beaucoup à notre écoute, que ce soit toute personne qui travaille auprès de nous ou au sein de nous, que ce soit le corps médical, que ce soit la direction, que ce soit les surveillants, que ce soit nos responsables, des gens extérieurs qui interviennent. Donc après, tout en restant dans leur cadre à eux, c'est-à-dire dans leur place à eux et nous à notre place à nous, mais il y a énormément de respect vis-à-vis d'eux qui se sont installés en fait.
Le fait aussi que vous prépariez à manger pour tout le monde ici, je suppose que c'est un lien intéressant, socialement parlant.
C'est un lien intéressant, c'est un travail que j'avais de voir, que j'ai repris, que j'ai eu l'opportunité de reprendre et que je fais avec plaisir au sein de la prison.
Alors demain justement, après la prison, qu'est-ce que vous avez préparé ou qu'est-ce que vous essayez de préparer ?
Déjà un aménagement de peine sur un bracelet, chose que j'ai demandé, qui m'a été refusée une première fois, donc voilà, je pars sur cela. Par la suite, un déménagement, un rapprochement de mes filles qui ne sont pas dans le 04, qui sont assez loin, qui sont dans le 13, donc ça sera un rapprochement d'elles, avec, bien sûr, j'ai un suivi pendant 5 ans, moi derrière, en sortant de prison, donc à ma libération, donc j'aurai un suivi de 5 ans au niveau du service pénitentiaire SPIP. Donc j'aurai cela à faire derrière, avec un suivi psychologique et psychiatrique aussi, puisque ça a été jugé, ça a été imposé par la juge, enfin, par le juge d'instruction. Donc cela, je devrais le faire et je pense me rapprocher de mes filles et trouver du travail plus dans le sud-est de la France, vers Marseille, tout ça. Et
dans la restauration ?
Non, je pense pas à la restauration. J'ai d'autres projets en tête.
Mais c'est
J'ai d'autres projets en tête.
On vous souhaite de pouvoir réaliser ces projets, bien sûr. André Magnier, vous êtes le directeur de la maison d'arrêt ici même. Quand un détenu demande un aménagement de peine comme cela, vous avez votre mot à dire vous-même ?
Oui, il y a un débat contradictoire avec le JAP.
Alors, le JAP, c'est ?
Le juge d'application des peines, le substitut du procureur, un représentant du SPIP, un représentant de la maison d'arrêt, un détenu et son conseil, s'il le souhaite.
Donc en l'occurrence, et à vue de nez, comme ça, Christophe a des chances d'avoir son aménagement de peine accepté. Si vous pouvez répondre, bien sûr.
Je peux répondre puisque je donne mon avis en présence du détenu, donc j'ai pas à m'en cacher. Oui, il a toutes ses chances.
Donc on est dans une.
Par contre, j'aimerais quand même préciser quelque chose parce que depuis tout à l'heure on parle des détenus, mais le détenu c'est pas un être à part. Hein. C'est juste une personne qui à un instant T est sortie de la société, mais qui va y retourner. Parce que on parlait avec Audrey tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont différents ? Enfin, c'est les mêmes gens que dehors, quoi. C'est le même public.
C'est l'objet de notre émission, voilà. Figurez-vous. Et c'est.
Je pense que j'aurais dû commencer par ça. Quoi,
c'est ce que nous allons répéter nous pendant toutes ces émissions, de dire que ce sont des citoyens comme voilà, d'autres citoyens qui ont des droits et des devoirs aussi. Ils se sont manqués à un moment, ils sont en train de se racheter.
Mais après, c'est terminé.
Et le regard de la société doit évoluer aussi par rapport à ça. Et l'importance de l'intervention de Christophe est fondamentale aussi.
Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire André pour compléter aussi les choses. Si le service pénitentiaire d'insertion et de probation organise aussi un certain nombre d'activités au sein de la maison d'arrêt, et parfois en dehors, dans le cadre d'ailleurs de permissions de sortie, par exemple comme une activité athlétisme que l'on fait en partenariat avec le club d'athlétisme de Gap et jeudi après-midi. C'est aussi pour limiter la rupture aussi de la personne citoyenne condamnée avec le reste de la société le temps de sa période d'incarcération. C'est-à-dire que, certes, effectivement, on met la personne à l'écart. C'est la société qui a décidé de s'organiser de cette manière-là en instaurant un système pénitentiaire carcéral. Donc, elle est à l'écart, mais malgré tout, elle n'est pas en dehors non plus. Et donc, il s'agit aussi pour nous de faire rentrer les services publics à l'intérieur de la maison d'arrêt avec Pôle emploi, la mission locale qui vient de faire des permanences, avec l'éducation nationale et l'intervention d'Audrey, les services sanitaires, etc. Et c'est aussi, sur certains temps, avec certains détenus, quand le profil le permet, de faire aussi sortir sur une période courte qui est cadrée le détenu vers l'extérieur de la maison d'arrêt, parce que si la rupture elle est trop grande et si elle est totale, la réinsertion sera d'autant plus compliquée. Donc il y a aussi cet aller-retour entre le dedans-dehors qui nous appartient aussi de travailler. La deuxième chose que je voulais préciser, sur laquelle je voudrais rebondir, c'est que notre rôle, il est aussi de travailler à l'échelle de la personne, et on est sur une individualisation de l'accompagnement, et effectivement l'accompagnement des cancers d'insertion et de probation va se faire de manière adaptée à la situation de la personne, en fonction des faits commis, en fonction du parcours judiciaire, en fonction du comportement, de la situation, du niveau scolaire, du niveau de diplôme, etc. Du contexte familial, est-ce qu'il y a des parloirs, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce que la personne est socialement isolée ou est-ce qu'elle ne l'est pas, est-ce qu'il y a un logement déjà qui l'attend à la sortie ou pas. Et donc on est vraiment aussi dans l'individualisation de la prise en charge, et ça c'est extrêmement important. Et c'est aussi, quand Patricia indiquait qu'on peut passer du temps derrière une porte, c'est aussi important parce que pour nous ce retour-là et le lien qu'il y a aussi entre la détention et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, même si nous n'avons pas la même place, ces deux places-là sont complémentaires pour pouvoir veiller et accompagner au mieux la personne dans son retour aussi dans la société post-peine et post-incarcération.
Alors justement, une fois que la personne est libérée, vous avez aussi une capacité à suivre un peu son cursus ou à l'accompagner un petit peu à l'extérieur.
Si derrière il y a une mesure qui est prévue et que dans le cadre de sa peine, effectivement, il y a une mesure en milieu ouvert qui est prévue.
Ce sont les magistrats qui décident.
Oui, c'est au moment de la condamnation qu'il y a une partie ferme et une partie sursis mise à l'épreuve qui est décidée ou pas. Et donc effectivement, c'est ce qu'indiquait tout à l'heure Estelle sur est-ce que la sortie elle est sèche ou est-ce qu'elle est accompagnée ensuite dans le milieu ouvert.
Donc un moment qui risque d'être important pour les personnes qui sont libérées ensuite, de ne pas se retrouver tout d'un coup dehors, lâchées.
C'est tout l'objet de notre travail. Dans ce cadre-là, dans le cadre de cette individualisation, on va effectivement faire un peu le rétro-planning de la sortie et préparer au mieux dans les délais qui nous sont impartis, puisqu'on est encore une fois sur des courtes peines à la maison d'arrêt, donc on n'a pas non plus une préparation très très longue, on n'a pas un temps très très long, mais malgré tout, on remonte pour essayer de s'assurer que cette sortie, bien qu'elle soit sèche, soit malgré tout préparé. Et je passe la parole à ma collègue qui voudrait compléter.
Alors c'est Estelle Bonnet qui prend la suite.
Alors si je peux me permettre, effectivement, même s'il n'y a pas de peine en tout cas qui a été prononcée par le magistrat, on a ce qu'on appelle un accueil passager qui est prévu, c'est-à-dire que la personne peut, dans les 3 mois qui suivent la sortie de détention, venir nous voir. Alors je le parle parce que ça c'est en plus c'est quelque chose qui m'a été demandé tout à l'heure, une personne qui sort de prison et qui souhaite en tout cas avoir de l'aide pour ses démarches administratives. Alors notre rôle à nous, ce sera de l'orienter vers des assistantes sociales de secteur, et là, on aura plus un rôle d'orientation, mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est important qu'on puisse faire le lien aussi avec l'extérieur, même s'ils ne sont pas suivis dans le cadre d'une peine avec nous.
On sent bien que c'est un travail d'équipe qui vous anime.
Tout à fait.
Donc, on voit bien qu'il y a chacun son rôle, certes, mais il y a un but final commun, et tout s'imbrique de manière à pouvoir faire en sorte que les personnes qui sortent d'ici sortent les moins cabossées possible, quoi.
Tout à fait, et surtout ne reviennent plus jamais.
Christophe, ce mot cabossé.
Oh, c'est un mot très dur, ce mot.
Et bien sûr, mais c'est à vous que je pose la question, parce que...
Après, je pense pas que ça arrive à tout le monde de faire une erreur de parcours dans la vie. Le seul problème, c'est que les gens, à l'heure actuelle, en fait, du moment qu'on est passé en prison, ou qu'on vient sortir de prison, les gens nous mettent une image. Et malheureusement, c'est une image qu'il faudrait qu'ils s'enlèvent de la tête, parce que je pense que toute personne dans sa vie a un coup dur et toute personne réagit différemment. Donc à partir de là, on est jugé, on est condamné. C'est assez lourd d'entendre une condamnation. C'est assez lourd d'être enfermé après, de pouvoir l'accepter d'être enfermé. Et si à la sortie, on vous met une image, c'est encore plus dur d'accepter en fait le regard des gens.
Vous savez qu'en ce moment, la discussion au niveau des entreprises, c'est le fameux droit à l'erreur qui va être inscrit dans la loi. Le droit à l'erreur en ce qui concerne la conduite sociale des individus n'existe pas, puisque bon, il y a malheureusement des condamnations, et peut-être qu'il faut faire aussi évoluer quelque part les choses, mais de manière très subtile, très positive, et évidemment au cas par cas, comme on l'a vu ici même, et en tout cas dans une maison d'arrêt à échelle humaine, comme ici à Gap. Je vais vous remercier tous d'avoir participé à cette émission, sauf si vous avez envie de rajouter quelque chose, une conclusion particulière, peut-être André Magnier. Bon,
pas une conclusion, mais ce genre d'émission, plus on en fera, plus on parlera des prisons, plus on pourra s'expliquer et on arrêtera de fantasmer.
On est d'accord, et puis il y a votre collègue aussi, Patricia Gomez, qui voudrait intervenir.
Oui, et je voudrais dire aussi oui, qu'effectivement, il faut arrêter de stigmatiser un peu les gens qui passent en prison, parce que de par mon expérience de 30 ans d'administration pénitentiaire, j'ai rencontré des gens sur lesquels je ne me serais jamais retournée dans la rue, des gens géniaux, des gens qui m'ont touchée, des gens que j'ai eu été amenée à revoir dehors, qui m'ont présenté leur famille, leurs enfants. Et c'est quelque chose de très, très valorisant. Donc, en fait, en même temps, valoriser l'action qu'a le personnel, justement, dans sa mission de garde, certes, mais aussi de réinsertion. Et c'est très, très important.
Merci à tous pour ce beau message humain que vous venez de délivrer tous ici même autour de cette table. À très bientôt.
Et voilà, donc c'était la première partie de cette émission. Je vous remercie donc d'être venu pour continuer sur la maison d'arrêt. Fabrice Delon, vous êtes directeur de la maison d'arrêt de Digne-les-Bains et vous êtes accompagné de Gwenaëlle Joly, votre chef adjoint, c'est ça? Vous me direz un peu plus vos fonctions. Et puis Olivier Villès, directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour le 04 et 05. Alors on va commencer avec vous, Fabrice Delon, pour savoir déjà ce que vous ressentez par rapport à ce que vous venez d'entendre, s'il y a des différences avec la maison d'arrêt de Digne.
Eh bien, bonsoir Odile, merci de m'avoir invité à cette soirée à Fréquence Mistral pour parler des prisons françaises. Je suis donc le directeur de la maison d'arrêt de Digne depuis maintenant 18 mois. Auparavant, j'étais sur la maison d'arrêt d'Ajaccio, en Corse du Sud. Je dirais que la maison d'arrêt de Gap et de Digne sont identiques à elles-mêmes. Deux petites maisons d'arrêt de la direction interrégionale de Marseille, petit établissement à taille humaine, ou sur mon établissement, la maison d'arrêt de Digne. Les personnels sont très impliqués. Je dispose de 23 surveillants, de 4 gradés, de 3 personnels administratifs, de mon directeur adjoint, Gwenaëlle Joly, avec qui ça se passe très bien. Le travail est fait en collaboration. Je dirais qu'il y a une prise en charge des personnes détenues qui est très importante. Les personnels sont très impliqués. Pas d'incident sur la maison d'arrêt de Digne, pas d'agression sur la maison d'arrêt de Digne. Et ça, c'est très important par rapport aux autres établissements pénitentiaires où les agressions sont très importantes. Maison d'arrêt de Digne, zéro agression. Les personnels sont très impliqués. Il y a le respect mutuel entre les personnels, les personnes détenues. Beaucoup d'activités sont mises en place sur l'établissement, ce qui génère une satisfaction de l'ensemble des personnes détenues. Il y a une très bonne collaboration avec Olivier Villès, avec Fabien Nuseglio du SPIP. On met énormément d'activités en place. La semaine dernière, nous avons encore organisé le SID Action, qui a très très bien fonctionné avec des partenaires extérieurs qui sont intervenus. On a pu récolter presque 300 euros pour le SID Action. On a organisé aussi la semaine dernière le Forum pour l'emploi avec des entreprises qui sont venues présenter plusieurs métiers, des formations pour les détenus, ça a très bien fonctionné. Je dirais que je suis très, très satisfiat de cette petite maison d'arrêt de Digne-les-Bains. Mars 2017, j'ai reçu le garde des Sceaux, M. Urvoas, qui est venu visiter l'établissement. Il ne revenait pas. Il me dit « c'est la première fois que je viens dans une prison où je ne me fais pas insulter ». À la maison d'arrêt de Digne, les détenus ne crient pas, il n'y a pas de chahut, j'ai pas de violence par rapport...
Vous les droguez ou quoi?
Pas du tout. Je pense que vous avez pu interroger dernièrement...
Oui, on écoutera d'ailleurs tout à l'heure le professeur de PS qui intervient aussi régulièrement
qui va démontrer, le bon fonctionnement de l'établissement.
Alors, on rappelle quel est le rôle de Gwenaëlle Joly, puisqu'il vous seconde.
C'est
vous qui avez les responsabilités. Donc vous
tout à fait. J'ai les responsabilités intégrales de l'établissement. J'ai les responsabilités administratives, pénales. Gwenaëlle me seconde quand je ne suis pas là. Il a plus la charge de la gestion de la détention, la prise en charge des personnes détenues. Moi, je gère tout ce qui est l'administratif, le budget de l'établissement. Et quand je ne suis pas là, Gwenaëlle passe numéro 1 et prend le relais.
Alors, vous vouliez nous dire que vous aviez des spécificités, vous aussi, Gwenaëlle Joly?
Alors, bonsoir déjà, oui, bonsoir. Bien sûr, sur l'établissement, chacun a ses missions propres. C'est vrai, comme l'explique M. Delon, lui, il est sur plus le côté administratif, gestion budgétaire, représentativité aussi auprès des autorités administratives et judiciaires. Moi, je vais être plus sur ce qu'on appelle la partie détention, et essayer de faire le lien aussi avec les différents partenaires qui interviennent au sein de la maison d'arrêt, partenaires sociaux, éducatifs, et arriver à faire une coordination entre ces différents partenaires et les personnes détenues pour que les différentes activités proposées au sein de l'établissement se passent le mieux possible et soient le mieux encadrées et organisées possible.
Donc une maison d'arrêt idyllique, à taille humaine, où il y a du respect, tolérance. Moi j'ai envie de revenir, puisque on a quand même quelques questions à vous poser. Par exemple, un auditeur m'avait demandé de faire passer ce message. Qu'est-ce qui est fait pour séparer en prison les condamnés reconnus coupables des détenus provisoires qui ne sont que des présumés innocents ?
Si je peux me permettre d'intervenir à ce niveau-là, hein, la séparation doit être effective entre les personnes détenues prévenues et les personnes détenues condamnées au niveau de l'encellulement. Voilà, ça c'est un principe qui doit être appliqué normalement dans tous les établissements pénitentiaires. Ceci étant, la spécificité de Digne fait que nous avons aucune cellule individuelle. Donc les cellules peuvent aller de 2 personnes détenues jusqu'à 6 personnes détenues, ce qu'on appelle communément des dortoirs. Donc à partir de cette configuration structurelle-là, il est très difficile de séparer les prévenus et les condamnés. On doit gérer un petit peu le tout venant. Et on n'a que 11 cellules. Que 11 cellules pour 42 voire 45 personnes détenues. Ce qui est très compliqué de pouvoir gérer à la fois le côté psychologique, le côté personnel, parce que aussi il y a toutes les catégories fumeurs, non-fumeurs. Et vous imaginez bien que dans un dortoir où il y a 6 personnes détenues, pour que l'entente se fasse, ben, on privilégie avant tout la personnalité que la catégorie pénale, ce qui est, pour un petit établissement comme Digne, la priorité. Et malheureusement, comme vous l'expliquez, on ne peut pas forcément faire une séparation effective entre prévenus et condamnés.
Alors, moi, je voulais juste préciser hein, que toutes les cellules sont équipées de douches et de WC séparés à l'intérieur de la cellule.
Oui, alors ça, c'est ce que j'ai appris avec le surveillant brigadier tout à l'heure en l'interviewant. Et c'est énorme au niveau de la sécurité, puisque, en fait, d'après ce qu'il me disait, dans les prisons où les douches sont collectives, c'est vraiment un lieu de règlement de compte.
Dans les autres établissements pénitentiaires, les anciens établissements pénitentiaires, les douches, ce qu'on appelle, sont sur l'étage. Donc les personnes détenues ont le droit qu'à 3 douches par semaine. À la maison d'arrêt de Digne, ils peuvent prendre une douche tous les jours, une fois, deux fois, trois fois par jour. Ils vont au sport, ils reviennent, ils prennent une douche. Avant d'aller se coucher le soir, ils peuvent prendre une douche. Et c'est un facteur important de la réinsertion.
Olivier Villès, vous vouliez dire quelque chose ?
Oui, peut-être sur le questionnement entre le prévenu et le condamné. Je crois que si le principe, c'est la séparation, on voit bien que dans les établissements de Gap et de Digne, le principe, c'est la prise en compte de l'individu, le travail qui est fait entre l'individualisation de son suivi et la prise en compte de la personne elle-même. Ce qui permet effectivement qu'au final, on n'ait pas de soucis et pas de problème entre le fait qu'un prévenu côtoie un condamné sur ces établissements-là. Et puis, je voulais réagir aussi sur la question qui revient plusieurs fois, qui est la des prisons à taille humaine. Mmh. Personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire, une prison à taille humaine. Je pense qu'on peut parler de prison où on prend en compte l'humain dans ces prisons. La taille, je ne suis pas sûr que ça soit la taille elle-même de la prison. On voit bien que la taille humaine, on est dans des dortoirs de 6 personnes. Je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose de réellement humain dans la prise en compte d'une vie collective un peu permanente où on va mettre 6 personnes ensemble dans un quotidien, dans un espace clos et assez réduit. Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment une humanité telle qu'on pourrait la concevoir. Par contre, ce qui est sûr, et encore une fois, c'est que dans ces établissements, on travaille de manière complètement conjointe. On connaît toutes les personnes, on connaît leur parcours de vie, on connaît toute leur histoire. On le partage entre la maison d'arrêt et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, plus tous les intervenants extérieurs. Et c'est ça qui fait peut-être qu'on a un travail conjoint qui fait qu'on a des résultats en termes de préparation de la sortie et d'aménagement de peine, on l'évoquait, qui sont des résultats qui dépassent toute espérance, j'allais dire, dans une organisation d'un établissement pénitentiaire. Et ces deux établissements, effectivement, rendent ce service-là. Après, j'avais encore un tout petit point là-dessus. Je voudrais qu'on revienne aussi sur les représentations. La prison, c'est un instant dans la vie d'un individu. C'est une période. Alors, un instant qui peut être très court. On a des peines de prison qui vont être données pour une semaine. Et puis, un instant qui peut être aussi très long pour 20 ans, 25 ans de prison. C'est pas la majorité. Les 20 ans, les 25 ans de prison, c'est pas la majorité des condamnations. On est sur des condamnations qui sont quand même bien moindres en fonction des faits qui ont été commis. Et du coup, l'importance qu'il y a à vraiment préparer la sortie d'un établissement. On n'est pas dans un établissement pour une vie entière. Et je crois que le reportage qui a été fait à la maison d'arrêt de Gap l'explique bien et le montre bien. On est aussi là, et ça prend toute son importance dans ce travail de préparation à la sortie de ces personnes, parce qu'il ne faut pas créer la rupture. Et je voudrais revenir, c'est la raison pour laquelle on maintient toutes ces activités, on développe toutes ces activités, parce qu'elles contribuent vraiment à maintenir le lien avec l'extérieur, avec des partenaires extérieurs qui interviennent et qui vont confronter ces personnes à ce qu'est la vie à l'extérieur et ce que continue et doit être la vie d'un détenu qui est privé de liberté mais qui n'est privé aucun de ses autres droits, qui est celui du droit au sport, du droit à la culture, du droit à la santé et du droit à la citoyenneté tout simplement.
On reviendra sur ce sujet de réinsertion, puisque j'ai eu donc l'occasion d'interviewer un policier qu'on écoutera dans une autre émission et qui disait justement que souvent les arrestations, après les personnes se retrouvent encore avec leurs anciens, quelquefois des anciens voyous, enfin avec qui ils ont fait des bêtises, et c'est le fait de les mettre encore ensemble, les maisons d'arrêt, ils passent d'une vie collective à une autre vie collective. Voilà, c'est encore un autre...
Mais c'est un sujet, c'est un vrai sujet d'ailleurs, voilà, qu'on essaye de prendre en compte aussi.
Fabrice Delon, chef d'établissement donc, de la maison d'arrêt, vous parliez qu'il y a très peu d'absentéisme au niveau des surveillants du personnel. Vous l'expliquez donc parce qu'il y a une très bonne entente.
Tout à fait. J'ai le taux d'absentéisme sur la maison d'arrêt de Digne, le plus bas de la direction interrégionale de Marseille. Je suis à moins de 4% d'absentéisme à l'année. Pourquoi il n'y a pas d'absentéisme, à mon sens, c'est que les personnels se sentent bien à la maison d'arrêt de Digne, ils viennent travailler, je dirais, avec la fleur au fusil, ils sont satisfaits, il y a des bonnes conditions de travail, on essaye d'améliorer les conditions des personnels, j'ai une approche quand même de mes personnels, je suis très attentif de mes personnels, je suis très proche d'eux, donc j'essaye de leur rendre le quotidien le meilleur possible, et ils me le redonnent, en effectuant leur travail correctement, en s'impliquant, en s'investissant. Voilà, donc j'espère que ça va perdurer de nombreuses années encore.
Alors on va revenir sur un sujet qui est rarement exposé, les suicides en prison. Bon, bien sûr, ça ce n'est pas heureusement très fréquent, mais comment ça se gère ?
Ah, ça se gère, je dirais, difficilement. Moi, je suis arrivé à la maison d'arrêt de Digne en octobre 2016. J'ai eu un suicide en décembre 2016 d'une personne détenue qu'on n'a pas détecté, que personne n'a détecté. Pourtant, on est très proche des personnes détenues, et on est passé tous à côté. Il y a eu une crise suicidaire subite, et la personne détenue s'est pendue dans la cellule. Donc, c'est difficile à vivre pour l'ensemble des personnels, parce que il faut le vivre après, il y a le choc quand même psychologique, ça reste un être humain. Ils sont juste privés de liberté, ils ne sont pas privés de leurs droits fondamentaux, donc c'est des moments difficiles à vivre. Il faut épauler les personnels, voilà.
C'est des moments difficiles à vivre, certes, pour l'établissement, pour le service pénitentiaire d'insertion et de probation aussi qui suit les personnes, et puis bien sûr pour les familles qui sont à l'extérieur. Peut-être rappeler aussi que pour la prise en compte de la question des risques de suicide en établissement pénitentiaire, on a un protocole qui est mis en place. Quand la personne arrive sur l'établissement, est incarcérée, il y a un premier suivi qui va se faire, il y a un certain nombre d'entretiens qui vont être mis en place, à la fois par l'établissement et la détention, à la fois par les services de santé et à la fois par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et que chacune de ces personnes qui va faire un entretien dit entretien accueil arrivant va, dans son questionnement et dans le regard qu'elle va poser sur la personne, va analyser si on détecte un risque éventuel, une tendance qui pourrait amener la personne à commettre un acte sur elle-même. Et si ce risque-là est détecté, on met en l'intérieur de la détention un protocole de prise en charge particulier, de surveillance de la personne particulière. Donc ça depuis un certain nombre d'années, c'est quelque chose qui est vraiment pris en compte par l'administration pénitentiaire, parce que c'est, on le disait, c'est vraiment un malheur et un malheur pour tout le monde quand ça arrive, et on essaye d'en avoir le moins possible. Je pense que d'ailleurs, si on regarde les courbes de ces dernières années de suicide en établissement pénitentiaire, ce sont des courbes qui vont à la baisse.
Voilà, moi je voulais juste un petit peu réagir aussi pour revenir un petit peu sur le terme que vous avez employé tout à l'heure. On ne peut pas parler de prison idyllique, ça n'existe pas. Et oui, la maison d'arrêt de Digne, la maison d'arrêt de Gap sont des établissements assez exceptionnels. Ceci étant, il ne faut pas oublier que la majorité des établissements pénitentiaires en France, c'est pas ce système-là. Nous, ben, comme vous avez pu le voir, on est sur 3 personnels par jour avec dégradés pour gérer une quarantaine de personnes détenues. Mais nos collègues dans les gros établissements vont parfois être tout seuls, un surveillant, pour 100, voire 120, voire 150 personnes détenues. Donc, on ne peut pas parler des mêmes conditions de détention et des mêmes conditions de travail. Et encore une fois, c'est la majorité, c'est les conditions de travail qui sont majoritairement celles-ci. Donc, avec peu de suivi individuel, des activités au compte-gouttes. Donc voilà, ça c'est vraiment... il faudrait vraiment aller faire un reportage dans les gros établissements comme Aix, comme Marseille, pour avoir un autre esprit critique des conditions de détention et des conditions de travail du personnel pénitentiaire.
Oui.
Oui, effectivement, c'est important ce que dit Gwenaël, parce que on pourrait avoir tendance à donner une prison et à se dire, mais finalement, c'est bien d'aller en prison globalement. Non, c'est pas bien d'aller en prison, c'est pas bien d'aller en prison ni globalement ni d'ailleurs dans le 04 et le 05, même si on voit que les conditions de prise en charge et d'accueil dans les établissements pénitentiaires correspondent à ce que ça devrait être dans tous les établissements, ce qui n'est absolument pas le cas. Et là, je rejoins bien évidemment Gwenaël.
Merci. Je vous propose d'écouter tout de suite le professeur d'EPS, d'éducation physique et sportive, et puis ensuite on se donnera rendez-vous pour la semaine prochaine sur les aménagements de peine. On l'écoute.
Oui, je suis moniteur de sport en milieu carcéral, donc sur la maison d'arrêt de Digne-les-Bains. Je m'appelle Patrick Maire et je suis professeur d'EPS dans la vie normale, entre guillemets.
Est-ce que c'est particulier de faire du sport dans une maison d'arrêt ?
Le milieu carcéral est vraiment très particulier. Bon, j'ai eu une expérience dans la ville d'Épinal où j'intervenais sur la maison d'arrêt au niveau du quartier mineur, femmes et adultes. Donc je connais un petit peu le milieu carcéral pendant à peu près 13 ans. Et ici, c'est une petite structure très conviviale et où, a priori, les détenus s'entendent vraiment bien entre eux. Le sport, ça permet de les réunir. Outre le fait de travailler sur leur corps, sur leur esprit, ça permet de travailler sur la solidarité, sur l'ouverture entre détenus et l'aide entre détenus. Donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là.
Donc vous avez travaillé aussi dans des maisons d'arrêt avec des femmes ?
Avec des femmes, oui.
Alors est-ce que c'est très différent ?
On peut constater parfois, bon, c'est pas systématique, mais que les femmes entre elles sont plus violentes, plus virulentes que les hommes entre eux. En tout cas, les problèmes ne se règlent pas du tout de la même manière.
Pour vous, est-ce que c'est un plus par rapport à votre profession ? Qu'est-ce que vous constatez comme bénéfice ou comme inconvénient ?
Pour moi, personnellement, ça m'a beaucoup apporté d'intervenir en milieu carcéral parce que c'est une population vraiment particulière. Bon, je suis revenu chez des mineurs, chez des femmes, chez des adultes. Là, il n'y a qu'un quartier adulte. Mais le relationnel est très, très important. Et en termes d'écoute, d'analyse, d'observation, ça m'a vraiment beaucoup apporté dans mon métier. Pas seulement sur l'analyse du geste sportif, mais sur l'analyse de la personne et sur la réflexion, la compréhension de la personne. Ça m'a énormément apporté, oui.
Quand est-ce que vous êtes intervenu la première fois dans une maison d'arrêt ?
En 2003.
Est-ce qu'il y a eu, lors de cette première fois, quelques appréhensions ? Qu'est-ce qui vous a poussé à intervenir ici ?
Ici ou...
Dans une maison d'arrêt.
Mais écoutez, c'était une opportunité de rentrer dans une maison d'arrêt. Donc, on imagine plein de choses, mais on ne sait pas du tout comment ça se passe à l'intérieur. Effectivement, beaucoup d'appréhension les premières fois. Je dirais même les premières fois, parce qu'on rentre dans un milieu particulier, on ne sait pas vraiment à quoi. On s'attend, quelles sont les réactions des gens en face. Et très surpris, parce qu'on est très attendu. Ils ont vraiment besoin des gens de l'extérieur pour avoir un regard autre, pour rencontrer quelqu'un d'autre, pour avoir une écoute, pour avoir aussi parfois des conseils, ou ne serait-ce que parler, qui leur convient très souvent parce qu'ils ont besoin de ça. Ici, le milieu dans lequel je suis à Digne, moi j'interviens donc au milieu sportif, ne viennent que les gens qui sont motivés. Et on a vraiment une forte adhésion et une grande motivation à la dépense physique. Et donc le relationnel se passe très très bien.
Est-ce que vous avez donc les premières fois été informé de chacun, de leur profil psychologique ou autre ?
pas du tout. Et j'ai toujours voulu occulter ça pour ne pas avoir d'a priori sur les personnes que je rencontrais et avec lesquelles je travaillais. Donc pour moi, c'était une personne lambda, brute. M'est arrivé parfois de savoir pourquoi ils étaient là, mais j'ai jamais questionné et j'ai jamais cherché à savoir pourquoi. Bon, il m'est arrivé parce que soit ils me l'ont dit ou soit par différents processus, j'ai réussi à savoir. Non pas que par curiosité, mais de manière inadvertante, pourquoi ils étaient incarcérés. Mais au départ, non, je ne cherche pas à savoir. Je prends la personne comme elle est et je la regarde comme elle est en tant que personne.
Il n'y a jamais eu d'affrontement de violence entre vous et un détenu ou...
Ça m'est arrivé avec un détenu mineur, mais bon... C'est la particularité aussi des mineurs qui recherchent la confrontation, qui recherchent l'ordre, qui recherchent l'adulte, qui recherchent le père qu'ils n'ont pas eu. Et forcément, ça a pu clasher une fois, effectivement.
Ça vous a appris sur vous ?
Oui, énormément, énormément sur moi, à me remettre en question, à écouter, à réfléchir avant d'agir beaucoup plus que par réaction. Et effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était une expérience très enrichissante pour moi depuis mes débuts en 2003.
Oui. Oh, maintenant, on va venir au SIDAction, puisque vous êtes aussi militant pour le SIDAction.
Tout à fait. Donc, quand on m'a proposé d'intervenir dans le cadre du SIDAction sur les 3 jours dans cette maison d'arrêt, j'ai tout de suite adhéré. J'ai dit oui, c'est une belle cause pour laquelle il faut vraiment agir. Le milieu carcéral est très concerné par ce genre de maladie, bien qu'on cherche parfois à l'occulter ou à ne pas en parler, et pourtant ça est une réalité. Et je pense que de partager avec les détenus à la fois une expérience sportive, mais aussi une intervention sur les risques, je pense que c'est très important, et ça leur montre aussi que nous, en milieu extérieur, on est ouvert et qu'on est aussi disponible et qu'on est aussi soumis aux mêmes risques qu'eux. Donc il est important de parler de prévention, il est important de parler de la maladie et puis de la manière dont on peut la soigner, dont on peut l'éviter.
Merci.
De rien.
Vous voulez dire quelque chose, Olivier ?
Oui, juste un petit mot, puisqu'on a évoqué la situation de la détention des femmes. C'est quelque chose qu'on n'aura pas l'occasion d'évoquer sur Digne et sur Gap, mais c'est quand même important parce que les femmes en détention, ça crée d'entrée une condition de rupture sociale encore plus grande. Je vais prendre juste un exemple. En région PACA, il y a 2 lieux. Où on peut détenir les femmes, c'est la maison d'arrêt de Nice et la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille. Et tout de suite, quand on incarcère une femme, elle se retrouve en situation de rupture sociale, de grande rupture sociale, parce que éloignée de son lieu de vie et de son territoire de vie. Ce qui est moins le cas pour les hommes qui sont en détention. Et donc, on a un travail beaucoup plus grand et beaucoup plus de proximité à avoir avec les femmes. Et effectivement, des difficultés peut-être aussi qui se surajoutent dans leurs conditions de détention.
Merci, je vous remercie tous d'être
Merci.
Venus pour cette
Merci,
table
Merci.
En direct. À la semaine prochaine, donc sur les aménagements de peine. Bonsoir.
Bonsoir.